Bonjour, Michael Langlois. Donc, vous êtes enseignant et chercheur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg parmi toutes vos casquettes, si j'ai bien compris. Et d'ailleurs, on est justement ici au très joli palais universitaire de Strasbourg. Donc, vous pouvez commencer par vous présenter peut-être plus en détail.
Oui, je m'appelle Michael Langlois, je suis maître de conférence en Ancien Testament, ici à la faculté de théologie protestante au Palais Universitaire, une belle faculté qui est à l'origine de l'université de Strasbourg dès le XVIe siècle. 1538, on commence à enseigner la théologie protestante. C'est les origines de l'université de Strasbourg et pour moi c'est vraiment un honneur d'être ici pour enseigner les sciences bibliques, l'hébreu, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque et donc m'intéresser notamment aux manuscrits de la Mer Morte, entre autres choses.
Oui, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les manuscrits de la Mer Morte, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a de nombreuses revues qui abordent le sujet, etc. Voilà, un sujet qui a suscité de nombreuses recherches, des questions, des hypothèses, des mystères un peu. Voilà, donc rien qu'à l'évocation de ces manuscrits, on sait qu'on s'engage dans une discussion passionnante et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors d'abord, moi j'ai envie de savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à ces manuscrits de la Mer Morte très particulièrement.
Ah oui, c'est une très bonne question. J'avais commencé par donc je faisais des études de théologie. Je m'intéressais donc à la Bible, à la théologie. Et c'est vrai que la Bible m'intéressait tout particulièrement, même avant de faire des études de théologie d'ailleurs. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Je lisais la Bible régulièrement et donc j'étais passionné par ces histoires de la Bible. Quand j'ai fait mes études de théologie, c'est vraiment l'exégèse qui m'a plu, l'idée de creuser le texte biblique et en particulier dans l'étude des langues bibliques, de pouvoir retourner aux origines du texte et toujours c'est dans cette perspective de m'intéresser de plus près au texte, de toucher au plus près aux origines du texte, ben forcément je me suis intéressé aux plus anciens manuscrits de la Bible et c'est donc à Qumran qu'on trouve les tout premiers manuscrits de la Bible.
Alors Qumran, c'est un nom presque qui fait rêver rien qu'à l'évoquer, je trouve. Tout de suite, ça nous parle d'exotisme. Et donc justement, alors est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu le contexte? Alors ce lieu, Qumran, qu'est-ce qu'on y trouve? Où ça se trouve? Et puis les manuscrits de la Mer Morte, eh bien à quelle époque on se situe pour un petit peu poser le cadre?
Oui, alors Qumran, c'est le nom d'une ruine en fait, hein, qui était connue déjà il y a plusieurs siècles. On sait que les explorateurs occidentaux qui viennent en Terre Sainte, déjà au 18e, 19e siècle, connaissent Qumran. C'est le nom qui est donné à ces ruines par les Bédouins qui occupent la région. Les premières hypothèses des Occidentaux, c'est que Qumran, c'était peut-être le nom de la ville biblique de Gomorre. Hein. On parle de Sodome et Gomorre dans la Bible, dans la Genèse. Et ça sonne à peu près pareil en arabe, Qumran. La lettre Q au départ, Q, en arabe, était prononcée G par certaines populations arabes, et encore aujourd'hui dans certains dialectes arabes. Et donc les Occidentaux disaient, ah, mais peut-être qu'on a là les ruines de Gomorre. Mais c'était avant, disons, l'ère de l'archéologie, c'était avant le XXe siècle. Donc le site était connu, il est au bord de la mer Morte, tout au nord de la mer Morte, au sud de Jéricho. Grosso modo à l'est de Jérusalem, c'est une demi-heure de route en voiture à l'est de Jérusalem, au sud de Jéricho, et vous avez ces ruines qui étaient situées là, qui étaient visibles, qui n'étaient pas recouvertes, on les voyait, mais les Occidentaux ne s'y sont pas intéressés avant la moitié du XXe siècle.
Parce qu'elles présentaient pas d'intérêt particulier, puis elles étaient peut-être un peu isolées. Enfin, du coup, si on dit que c'est à une demi-heure de voiture de Jérusalem, pour l'époque, c'est très loin, en fait.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une demi-heure de route. Il y a des belles routes goudronnées. À l'époque, c'était pas le cas. Et c'est vrai que la région était désertique. On avait l'impression que c'était un peu perdu au milieu de nulle part. Donc, vous avez quelques tas de pierres, disons, quelques murs. Un peu isolé, a priori, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est peut-être de réfléchir en disant, ah, c'est peut-être la ville de Gomorre. Mais c'est sûr que les explorateurs et les premiers archéologues avaient bien mieux à faire, notamment à Jérusalem, enfin, dans des grandes villes, il y avait des sites archéologiques bien plus intéressants que Qumran. Donc, jusqu'au milieu du XXe siècle, on s'y est pas vraiment intéressé.
C'est tout récent et donc c'est comment que ça se fait qu'on s'y est intéressé au milieu du XXe siècle?
Eh ben, on s'y est intéressé parce que, on a découvert des manuscrits qui venaient de là-bas et pas des archéologues, hein. C'est-à-dire que sur le marché des antiquités, se sont trouvés comme ça quelques manuscrits, des manuscrits hébreux anciens et qui avaient été trouvés par des Bédouins. C'est eux qui connaissent bien la région, évidemment. D'ailleurs, au début, on savait pas d'où venaient ces manuscrits et c'est en questionnant, on a fini par savoir que les manuscrits venaient de Qumran. Et c'est là, c'est à ce moment-là seulement que les archéologues se sont dit, ouh là là, il faut qu'on retourne sur place pour voir ce qui s'y passe. et voir en particulier ce que c'est que cette histoire de manuscrits au milieu de ces ruines.
Oui, parce que du coup, ces ruines, on sait à peu près de quand elles datent.
Alors les ruines, oui, on a fait des fouilles. Du coup, depuis, pendant plusieurs années, à la fin des années 40 et surtout dans les premières années des années, oui, les années 50, 51, 52, etc. Enfin, toutes ces années-là, il y a eu des campagnes de fouilles archéologiques qui ont été faites par un archéologue français, d'ailleurs, le père Roland Devaux, qui était le directeur de l'école biblique et archéologique française à Jérusalem à l'époque. C'est lui qui a dirigé le champ de fouilles. Et l'essentiel de l'occupation du site, selon lui, alors les chronologies, elles sont remises en question aujourd'hui, mais enfin, grosso modo, on est entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère. C'est grosso modo la période d'occupation principale du site. Mais il a également trouvé des vestiges beaucoup plus anciens, et qui notamment des vestiges qui dataient de la première moitié du premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire vraiment l'époque des royaumes d'Israël, de Juda. Il y avait déjà une occupation. Donc ce site a manifestement été occupé à différentes époques. Peut-être il était occupé pendant un temps, puis abandonné, puis réoccupé. Et puis finalement, il a été abandonné, semble-t-il, à la fin du 1er siècle de notre ère, après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Il y a des traces d'occupation ponctuelle, peut-être par des militaires, ou peut-être au début du 2e siècle de notre ère, par des rebelles judéens. Mais ensuite, le site a été abandonné.
Et alors justement, ce site, donc sa situation, et puis ce qu'il en reste, ça suscite aussi des différents questionnements et hypothèses quant à la nature et la fonction. Donc, quelles sont ces différentes hypothèses, justement?
Oui, alors les spécialistes n'étaient pas tous d'accord, et ne le sont d'ailleurs toujours pas, on n'est pas tous d'accord sur la fonction de ce site, l'occupation de ce site. Il y a eu plusieurs hypothèses. Alors, le bâtiment qui ressort le mieux, donc d'emblée, quand on arrive sur le site, il y a une grosse tour. C'est le bâtiment qui est plus haut que les autres, qui est très épais, des murs très très épais. Donc forcément, on peut pas la louper, cette tour. Et ce genre de tour, une tour fortifiée, on pense évidemment à une occupation militaire. Et donc ça, c'est une hypothèse qui est encore défendue à l'heure actuelle par certains archéologues qui estiment que oui, c'était en fait un site à vocation militaire, une tour avec un réfectoire, des chambres, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour une petite garnison. Donc ça, c'est une hypothèse qui est intéressante. En plus, on a retrouvé des pointes de flèches, dont du matériel militaire, et ça a un sens puisqu'on est au carrefour ça circule en fait. Aujourd'hui, ça semble un peu désert, mais en fait, à l'époque, on est au carrefour entre l'axe est-ouest, entre Jérusalem et Amman, et l'axe nord-sud entre Jéricho et Masada, enfin le long de la vallée du Jourdain et de la mer Morte. Donc on se dit, oui, ça a un sens de mettre une tour ici et de contrôler la région d'un point de vue militaire. Alors le problème, c'est que, à part la tour qui, elle, effectivement, est bien fortifiée, les autres pièces, les autres murs sont très fins, c'est des petits murets, ça fait 20 cm d'épaisseur, c'est pas très cohérent si on veut établir une garnison militaire, de se contenter de pas avoir au moins un périmètre un peu mieux fortifié que ça. Donc ça, c'est quand même un peu problématique, cette hypothèse.
Ce questionnement amène d'autres hypothèses, parce qu'en effet, c'était pas qu'un petit muret qu'on allait protéger, une petite ville. Mmh. Donc il y a d'autres chercheurs qui émettent d'autres hypothèses, alors notamment autour de ces manuscrits, puisque c'est la présence d'un objet qui éveille aussi largement l'attention et la curiosité.
Ben oui, c'est ça. Évidemment, il y a des manuscrits, et ce sont même ces manuscrits qui ont attiré l'attention sur ces ruines. Et donc, on s'est dit, quand même, s'il y a des manuscrits, il faut trouver une explication qui soit liée à la présence des manuscrits. Donc, on a pensé, évidemment, à un établissement à caractère religieux, parce que les manuscrits sont tous des manuscrits religieux. Donc, on se dit, ce sont des religieux qui habitent là. Alors, on s'est dit, peut-être, c'est un lieu où on produit des manuscrits, parce qu'on a retrouvé des encriers, ce qu'on pense être des encriers, peut-être même une table sur laquelle on peut poser le manuscrit pour le copier, et un petit peu plus au sud, pourquoi pas un lieu qui aurait pu servir à produire, traiter les peaux animales pour préparer les feuilles de cuir ou de parchemin qui ont servi de support à l'écriture. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas un centre de production de manuscrits. C'était l'hypothèse. Et puis toujours dans cette idée de production de manuscrits, on se dit, mais finalement c'est peut-être même une communauté religieuse qui habitait là et qui produisait des manuscrits pour elle-même et pas forcément pour les autres. Hein. C'est ça la question. Est-ce qu'il y avait vraiment du commerce de manuscrits?
Oui, parce que le commerce, c'était aussi une des hypothèses de fonction de ce lieu, en étant un carrefour aussi, au-delà d'un lieu militaire de défense, ça peut aussi être un lieu de commerce.
Oui, absolument. Ça peut être tout à fait un lieu de commerce. on est sur un lieu de passage et on avait même pensé à, alors certains pensaient à une exploitation agricole. Il y a des palmiers, on cultive des palmiers dans la région. On a retrouvé un nombre de noyaux de dattes impressionnants par milliers. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas une sorte de ferme, ou pourquoi pas un centre d'hébergement, une auberge. Hein, pensez à une auberge. À l'époque, on circule beaucoup à pied. On part de Jérusalem en direction d'Amman. On fait une journée de marche. On arrive, grosso modo, à Qumran. Alors, on peut faire escale à Jéricho ou à Qumran, c'est à peu près à la même distance. Mais on peut tout à fait imaginer que les gens passent la nuit là et qu'ils reprennent leur route le lendemain. Donc, il faut les loger, il faut les nourrir. Donc, ça a été aussi une des hypothèses qui avait été envisagée. Mais ces hypothèses-là, du coup, ne tiendraient pas compte de la grande quantité de manuscrits qui ont été découverts sur place.
Hormis le fait de penser qu'on offre de la lecture à tous les insomniaques.
Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, on peut s'imaginer que les gens sont insomniaques, qu'on leur offre de la lecture. Mais enfin, quand même, on a 600, 700 manuscrits juste là, à quelques dizaines de mètres. Ça fait quand même beaucoup de lecture juste pour des voyageurs. Donc, cette hypothèse-là, elle tient pas vraiment la route.
Oui, et puis en plus, à l'époque, alors déjà 600, 700 manuscrits pour aujourd'hui, ça fait déjà une grosse bibliothèque, mais enfin, d'autant plus pour l'époque où c'était encore moins courant qu'aujourd'hui. Enfin, il n'y avait pas une librairie à tous les coins de rue comme c'est le cas dans nos villes, quoi.
Ah oui, c'est la plus grande bibliothèque de la Judée, de toute la région. Il y a aucun site archéologique n'a fourni autant de manuscrits, du moins dans le judaïsme et le christianisme ancien. C'est pour ça que c'est peut-être la plus grande découverte du XXe siècle. On a en Égypte, à Nag Hammadi, on a découvert des dizaines de manuscrits qui sont très intéressants sur un site chrétien un peu plus tardif, notamment des textes apocryphes. Mais là, c'est quelques dizaines de manuscrits comparés à pratiquement 1000 manuscrits trouvés dans les différentes grottes et sites archéologiques de la Mer Morte. C'est colossal.
Oui, et donc du coup, pour revenir aux hypothèses de pourquoi 1000 manuscrits à Qumran, donc on peut imaginer que c'était un lieu de production de manuscrits ou un lieu où il y avait une communauté religieuse. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses au fil de l'avancée des recherches?
En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui me paraît le plus raisonnable, vu qu'aucune hypothèse à elle seule n'arrive à rendre compte de tout ce qu'on découvre sur place, c'est en fait de combiner ces différentes hypothèses, pas forcément au même moment, mais à différentes époques. Parce que c'est sûr que même l'hypothèse d'occupation par une secte religieuse de célibataires, enfin c'est un peu l'idée, la théorie essénienne, c'était des célibataires, ils vivaient là reclus dans le désert, éloignés de tout. Cette hypothèse-là, elle se heurte au fait que d'abord, on n'est pas éloigné de tout, au contraire, on est sur un lieu de passage. Le fait que sur place, on a découvert des éléments d'architecture, hein, des chapiteaux de colonnes, enfin, donc ça donne plutôt l'impression d'une belle maison, d'une famille aisée, enfin, des gens qui vivent plutôt dans le faste que dans le dépouillement. Donc en fait, à chaque fois qu'on avance une hypothèse ou l'autre, à chaque fois on dit « Ah oui, c'est intéressant, ça rend bien compte de tel et tel élément, mais ça se heurte à telle et telle autre chose. » Je pense que le mieux, c'est d'essayer de combiner ces différentes hypothèses à différentes époques. De dire, pendant un temps, ça peut être d'abord, on peut imaginer une sorte de fortin militaire, peut-être déjà justement à l'époque de la monarchie, à l'époque du royaume d'Israël. Et puis, une période d'abandon. Et puis, on revient sur place. Et peut-être une riche famille judéenne s'établit là pour avoir une maison d'hiver. Je dis ça parce que juste à côté à Jéricho, il y a un très beau palais construit par le roi Hérode. C'est la même époque que Qumran, hein, c'est pour ça que j'en parle. Alors que Hérode avait un palais aussi à Jérusalem. Mais si vous êtes à Jérusalem en hiver, il fait froid, il pleut, il y a même de la neige. À l'époque, on se chauffe pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et vous descendez dans la vallée du Jourdain ou au bord de la mer Morte, et d'un seul coup, là où il fait 0 degré à Jérusalem, il fait 15 degrés. Ça fait une énorme différence. Donc, Hérode se fait construire un palais d'hiver à Jéricho, à quelques kilomètres de Qumran. Et on peut tout à fait imaginer que d'autres familles judéennes, nobles, de Jérusalem, peut-être des familles sacerdotales, dans le périmètre du temple de Jérusalem, se disent, en hiver quand même, c'est quand même bien d'aller passer quelques jours dans une maison, un peu comme aujourd'hui on a une maison de campagne, ou je sais pas, eh bien ils auraient une maison au bord de la mer Morte. Et ce qui pourrait expliquer les aspects architecturaux, et puis pourquoi pas effectivement une exploitation agricole, tant qu'à avoir une maison là, pourquoi pas cultiver des palmiers, des dattes. Et puis petit à petit, pourquoi pas l'idée d'une réutilisation par une communauté religieuse, ou en tout cas un site à une vocation religieuse. Une des hypothèses les plus récentes à l'heure actuelle, c'est l'idée que le site est occupé par peu de gens à l'année, mais qu'il y avait des rassemblements religieux ponctuels, des sortes de fêtes religieuses, et que d'un seul coup, des centaines de personnes venaient s'assembler à Qumran pour célébrer telle ou telle fête religieuse. Donc vous voyez, les hypothèses les plus récentes, c'est de combiner différentes hypothèses pour arriver à comprendre ce qui se passe vraiment là-bas.
Et du coup, vous parliez du nombre de personnes. Pour se rendre compte, c'est à peu près quelle taille les ruines de Qumran? On peut parler de la taille d'un petit village, une ville?
Mais non, mais alors pas du tout, c'est beaucoup plus petit que ça. En fait, Qumran, c'est quelques pièces, une grande maison, je sais pas, une maison de maître. Pensez à une maison de maître comme on en a ici en Alsace, c'est pas plus grand que ça en fait. Donc on peut vivre, moi je sais pas, 10 personnes, 15 personnes peuvent vivre à Qumran, pas beaucoup plus. Alors dans la région, il y a des grottes, c'est toute la falaise est truffée de grottes, et on a trouvé une quarantaine de grottes aux alentours avec des traces d'occupation. Donc il y avait une occupation troglodyte, des gens qui, semble-t-il, vivaient dans ces grottes. Donc on peut imaginer que quelques dizaines de personnes en plus vivaient dans ces grottes, mais ça fait pas grand monde à tout casser. Et c'est surprenant parce que quand on voit 900 bols sur le site, on se dit on n'a pas besoin de 900 bols. Même la pièce qu'on estime être le réfectoire, elle peut contenir, oui, peut-être, je sais pas, 20, 30 personnes, 50 personnes en se tassant bien, mais 900, c'est ridicule, c'est absolument, c'est une autre échelle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces hypothèses en disant, mais peut-être que de temps en temps, il y a un grand rassemblement de gens qui viennent de toute la région pour s'assembler, pour célébrer une fête religieuse. Et là, d'un seul coup, il faut 900 bols.
Oui, surtout qu'a priori, en effet, l'aspect religieux du lieu, il finit par être plus ou moins attesté, parce que alors 1000 manuscrits qui contiennent donc des textes de la Bible, différents livres, etc. Forcément, le lien religieux, il est certain. Quoi.
Oui, il est certain. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je précise quand même qu'il n'est pas certain pour tous, parce que certains, il y a des spécialistes qui disent les manuscrits n'ont rien à voir avec le site. L'argument est le suivant. Les premiers manuscrits qui ont été découverts dans une grotte qui est à, disons, 2 km au nord du site. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on peut, depuis Qumran, se rendre là-bas. Il faut suivre un sentier, etc. Mais enfin, on se retrouve tout de suite dans la falaise. C'est truffé de grottes. Et puis d'ailleurs, il y a des grottes là, mais il y a des grottes aussi au sud, tout au long de la mer Morte. Wadi Mourabat, il y a des grottes. Nahal Khever, il y a des grottes, etc. Donc à la limite, on pourrait dire tout le long de la côte de la mer Morte, il y a des grottes avec des manuscrits. Donc, c'est peut-être une coïncidence. Le problème, c'est que c'est pas là qu'on a trouvé l'essentiel des manuscrits. C'est pas dans ces petites grottes artificielles, ces grottes naturelles qu'on a à quelques kilomètres au nord du site, c'est sur le site lui-même, en dessous du site. On a creusé des grottes dans le sol. Le sol, c'est une terrasse marneuse, et on a aménagé des grottes, notamment une très grande grotte qui, à elle seule, contient pratiquement 600 manuscrits et qui est, mais là, vraiment à 15 mètres, 20 mètres du site. On ouvre sa fenêtre et là, on voit la grotte. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait aucun lien entre les manuscrits et le site. Et puis, le dernier élément le plus probant, qui est malheureusement pratiquement jamais mentionné par les spécialistes, parce qu'ils sont pas spécialistes des textes, en fait, ils sont pas épigraphistes. Mais pour un épigraphiste que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les objets inscrits, on a découvert sur le site lui-même, à l'intérieur des pièces, des objets, des poteries qui sont inscrites. Et ça, on le fait souvent, comme un peu aujourd'hui, on met des libellés sur je sais pas, son pot de farine, son pot d'huile, on dit ce qu'il y a dedans, ou à qui ça appartient. Bref, quand on vit en colocation, dans le frigo, chacun met son étiquette avec son nom pour savoir qui est à qui. Bon, et donc du coup, à l'époque, on fait ça aussi. Mais quand on inscrit, quand on met un intitulé sur une jarre, on met des grandes lettres qui sont souvent inscrites à même l'objet, donc gravées dans l'argile. On s'est rarement fait à la peinture, à l'encre. Je dis la peinture, mais à l'encre, c'est rarement fait à l'encre. Or là, on a une inscription à l'encre et qui en plus n'est pas grosse, mais qui est toute petite, qui est faite avec un calame, donc c'est une sorte de stylo dans l'Antiquité, fait par un scribe professionnel. Vraiment, ce sont des professionnels qui sont capables d'écrire comme ça. Donc ça veut bien dire que sur place, dans ces pièces, vivaient des scribes professionnel. Donc là, le lien est vraiment assuré entre le site et les manuscrits. Il y a vraiment un lien. Pour moi, ça me paraît vraiment évident.
Oui, voilà, les manuscrits, ils auraient bien été écrits à Qumran, et puis dans l'objectif alors de les conserver à cet endroit, parce que si on construit une énorme grotte sous le site pour les conserver, c'est peut-être aussi une manière de peut-être protéger ces textes ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, voilà, parce que il y a des enjeux là de savoir si les manuscrits ont été copiés là. Il y a ceux qui disent que les manuscrits n'ont rien à voir avec le site. Il faut quand même m'expliquer qu'est-ce que les manuscrits sont venus faire là. Disent, le site était connu à l'époque, et lors de la destruction du temple, lorsque les Romains sont arrivés et qu'ils ont incendié la ville, il y avait une bibliothèque au temple de Jérusalem et on a voulu sauver les manuscrits, donc on a pris les manuscrits et on s'est précipité, on a couru vers la mer morte pour les dissimuler dans des grottes. Mais ça suppose que les grottes existaient déjà. Donc cette hypothèse-là, elle marche bien avec justement la première grotte qui a été découverte, la grotte 1 ou la grotte 2 ou 3 ou 11, enfin d'autres. Certaines des grottes qui sont effectivement au nord du site, qui sont des grottes naturelles, et là on voit très bien qu'on a pu à la va-vite dissimuler ces manuscrits dans ces grottes-là, mais les grottes artificielles sur place au niveau du site lui-même, qui sont les grottes de Qumran à proprement parler, ces grottes-là, on n'a pas pu les faire du jour au lendemain, et donc ça veut dire que ça s'est pas fait comme ça, en précipitation, on dit c'était la bibliothèque du temple qu'on a mis là rapidement. Je pense que ça s'est fait dans la durée, que ça a été pensé. En plus de ça, il y a un classement qui est fait. Une des grottes, donc parmi celles qui sont faites dans le sol sous le site de Qumran, ne contenait que des manuscrits grecs. Donc on peut s'imaginer que dire tiens, cette grotte-là, on va mettre ceci, celle-ci, on va mettre cela. Enfin, il n'y a pas toujours une logique, ou en tout cas la logique ne nous est pas toujours apparente quant au classement des manuscrits, mais il semble bien quand même qu'il y a une organisation. Donc ça s'apparente davantage à une bibliothèque qui est maintenue sur place qu'à une bibliothèque qui a été transférée à la va-vite à l'arrivée des Romains.
Oui, donc plus dans un objectif un peu conservatoire, voilà, comme s'il y avait une communauté de scribes qui retranscrivent tous ces manuscrits pour les conserver dans un seul et même endroit finalement, et puis qui récoltent les textes peut-être qui viennent d'ailleurs, mais en se disant à une époque, bon, maintenant on veut tous les mettre au même endroit pour avoir un peu l'ensemble des textes qui font de la religion, quoi.
Mais oui, exactement. Je pense que c'est un peu l'impression que ça nous donne, surtout aujourd'hui où on a une vue d'ensemble de tous les manuscrits. Il est évident qu'il y a 50 ans, quand le site a été découvert, quand les premiers manuscrits ont été découverts, on n'avait pas toutes ces informations-là. Donc les chercheurs ont fait avec les informations qui étaient à leur disposition. Et il a fallu attendre des dizaines d'années avant que les manuscrits soient publiés. C'est seulement aujourd'hui, qu'avec le recul, après 50, 60 ans, qu'on peut maintenant regarder l'ensemble des manuscrits et qu'on peut aussi se rendre compte que ces manuscrits ne reflètent pas tous une même idéologie, une même branche du judaïsme, mais qu'ils reflètent parfois des idéologies contradictoires et des différentes branches. Donc ça ressemble davantage à une sorte de grande bibliothèque du judaïsme de l'époque, où on va pouvoir se voir refléter un certain nombre de tendances, alors peut-être certaines plus que d'autres, c'est vrai. Mais malgré tout, on sent qu'il y a ce côté d'une bibliothèque au sens où nous, on l'entend aujourd'hui, on va aller chercher des livres, y compris peut-être des livres avec lesquels on n'est pas d'accord, mais qu'on veut quand même avoir sous la main, y compris par exemple des traductions en grec de livres de la Bible, alors qu'il est évident que les gens qui étaient à Qumran connaissaient l'hébreu, connaissaient l'araméen, ils n'avaient pas besoin d'aller voir du côté du grec. Donc s'ils le faisaient, c'était probablement par une volonté de savoir ce qui existait, de pouvoir avoir ça sous la main au cas où, pour pouvoir dialoguer et peut-être former. Une des hypothèses qui avait été envisagée, c'est justement que sur place, c'est un lieu de formation de scribes ou de savants, de rabbins, si vous voulez, on pourrait dire aujourd'hui, où les gens se formaient à l'étude de la Torah, des Écritures, et on rédigeait des commentaires, on discutait. Alors, ce qui n'empêchait pas une vie communautaire d'ailleurs, hein, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que je pense que ce site-là était occupé par des religieux qui avaient une vocation, pas forcément juste à copier des manuscrits, mais à les étudier, à les transmettre et peut-être à développer une idéologie particulière.
Une faculté de théologie, finalement.
Eh bien, pourquoi pas, une sorte d'ancêtre d'une faculté de théologie. L'idée me plaît, ouais, c'est pas mal.
Des savants qui étaient là. Et donc, justement, quand on commence à s'intéresser au contenu de ces manuscrits, alors évidemment, ça a dû prendre du temps. C'est pour ça qu'entre la découverte et puis maintenant, il a fallu tout ce temps de les décrypter. C'est écrit en plusieurs langues, dans des écritures que tout le monde ne maîtrise pas, loin de là. Et donc, justement, sur ce contenu des manuscrits, les avis aussi divergent parmi les chercheurs, voilà, sur en tout cas ce que ça nous dit du judaïsme de l'époque, quoi. Il y a plusieurs hypothèses aussi sur ce sujet.
Oui, c'est ça. Alors, les tout premiers manuscrits qui ont été découverts, ceux qui ont été découverts par les Bédouins, qui viennent de la grotte numéro 1. Alors, on lui a donné le numéro 1, c'était pas marqué 1 dessus, c'est juste comme c'est la première qui a été découverte, du coup, on lui a donné un numéro. Ces manuscrits étaient très particuliers, ils reflétaient une idéologie surprenante, qui parlait de d'une règle de vie, d'une communauté, qui racontait l'histoire, l'écrit de Damas, qui raconte le cheminement d'un groupe de Judéens qui se sont séparés du reste. On dit que l'ensemble des autres Judéens étaient tombés dans une forme d'impiété, même les prêtres à Jérusalem, même le grand prêtre, et que eux du coup se sont séparés, qu'ils ont prié, que Dieu leur a envoyé un maître, une sorte de leader spirituel qu'on appelle le maître juste. Lui, il est juste par opposition à ceux qui sont évidemment injustes ou impies, et qui du coup se seraient installés, et on a même la règle de leur vie en communauté, le règlement pour l'adhésion, ceux qui veulent adhérer à cette communauté, et la vie quotidienne, les repas, les offices, etc., etc. Donc c'est sûr que quand on a découvert ces premiers manuscrits, forcément, ça, on s'est dit, on a affaire à une secte. On s'est dit, c'est une secte. Et puis, on a cherché à quel groupe elle pouvait appartenir. On s'est renseigné sur ce qu'on savait du judaïsme de l'époque. Alors, la principale source d'information, c'est un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, qui a écrit à la fin du premier siècle de notre ère. Donc, il est contemporain de Qumran. Il écrit, disons, peu après la fin, disons, de la période d'occupation du site. Mais il a vécu, disons, à l'époque de Qumran. Et il dit que dans le judaïsme, il y a trois grandes branches, trois grands mouvements. Trois grands courants, les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Alors les Sadducéens et les Pharisiens, on les connaissait assez bien puisqu'on en entend parler également dans d'autres sources, notamment le Nouveau Testament qui est une source d'information sur le judaïsme à l'époque, qui nous parle des Sadducéens, des Pharisiens. Les Esséniens, on les connaissait par Flavius Joseph, un petit peu par Philon d'Alexandrie, par Pline, enfin on avait quelques sources comme ça. Et on s'est rendu compte que les textes de Qumran reflétaient assez bien une idéologie essénienne. Un des premiers à y avoir pensé, c'est André Dupont-Sommer, un Français qui a été notamment secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a été professeur au Collège de France. Enfin, c'est un personnage illustre. Et il a eu cette intuition que les manuscrits de la Mer Morte reflétaient une idéologie plutôt essénienne. À Jérusalem également, Elazar Soukeni, qui était professeur, qui était un des premiers à pouvoir consulter ces manuscrits, a lui aussi pensé à cette hypothèse essénienne, qui s'est vérifiée pour un certain nombre de manuscrits. On voit par exemple le livre d'Enoch est très populaire parmi les manuscrits de la Mer Morte.
Parce que les Esséniens, juste je vous coupe, du coup c'est quoi un petit peu les caractéristiques de cette branche du judaïsme?
Alors les Esséniens se caractérisent notamment par l'attente du Messie, la venue, c'est la fin des temps, disons pour eux, on attend la fin du monde arrive, le jugement divin arrive. On s'intéresse donc à un côté ésotérique, si vous voulez, un petit peu mystique, apocalyptique, la révélation de Dieu. On s'intéresse à ce que Dieu peut nous révéler, qu'on ne peut savoir en tant qu'être humain. Par exemple, il s'intéresse aussi aux origines de la création du monde. On n'y était pas, donc qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Il s'intéresse au monde spirituel, aux anges. Flavius Joseph nous dit que les Esséniens connaissent les noms des anges. Or, dans le livre d'Enoch, on a la liste des archanges, de quatre archanges, alors qui sont connus pour certains par ailleurs, l'archange Michel, Gabriel, on n'entend pas parler ailleurs, dans le livre de Daniel, dans le Nouveau Testament aussi. Mais là, on a des noms d'anges et aussi les noms des anges déchus. On a les 20 chefs des anges déchus. On nous raconte comment, justement, toute cette histoire, comment se fait-il qu'ils soient déchus, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, tout ça, on le trouve dans le livre d'Enoch, dans le livre des géants, qui nous raconte également donc la venue du châtiment divin, la venue du Messie. Donc toute cette idéologie-là, s'il faut la rattacher, ce sera certainement pas aux Sadducéens, qui eux vont se contenter uniquement du Pentateuch. Pentateuch, ça veut dire cinq livres, en fait, c'est les cinq premiers livres de la Bible, et c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse, communément, parce que c'est Moïse le personnage central du Pentateuch. Donc on a lu de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et c'est grosso modo les livres qui nous racontent l'histoire des patriarches, depuis la création du monde, Noé, le déluge, tout ça, Abraham, Moïse, et toute la révélation que Moïse reçoit et la constitution, si vous voulez, du peuple hébreu, du peuple d'Israël, avant l'entrée en terre promise. Donc ça, c'est le Pentateuch, c'est là qu'on a toutes les règles concernant les fêtes, la fête de la Pâque, toutes les fêtes religieuses, c'est là qu'on a les 10 commandements. Enfin, vous voyez, c'est le texte fondamental pour le judaïsme. C'est vraiment vraiment le cœur même de la du judaïsme, de la région israélite et du judaïsme ensuite. Et c'est ce sont les textes sur lesquels que les sadducéens vont auxquels les sadducéens vont accorder une autorité. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître leur autorité, mais les sadducéens par exemple vont s'arrêter là. Eux, ce sont les prêtres à Jérusalem, c'est la caste sacerdotale, et ils vont refuser d'autres textes, alors que les pharisiens et les esséniens, eux, vont prendre d'autres textes.
Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir cette hypothèse sur les esséniens à Qumran. Et donc du coup, toujours sur ces textes, donc ils nous disent beaucoup de choses sur cette Bible hébraïque, justement, notamment le contenu de ces textes, la manière dont ils sont organisés, le nombre d'exemplaires de chaque texte, parce qu'on en retrouve différentes variantes, en fait. Donc justement, qu'est-ce que cela nous dit sur la Bible hébraïque, l'étude un petit peu minutieuse de tout ce contenu?
Oui, c'est évidemment passionnant parce que à Qumran, pour la première fois, on a accès à des manuscrits bibliques très anciens. Avant la découverte de Qumran, quand on voulait étudier la Bible hébraïque, l'Ancien Testament des chrétiens, les textes hébreux, le texte hébreu d'origine, n'était connu que par des manuscrits du Moyen-Âge. La plus ancienne Bible hébraïque complète, elle date du début du XIe siècle de notre ère. Or là, Qumran, on n'est pas au XIe siècle de notre ère, on est au tournant de notre ère. On est 1000 ans plus tôt. Donc, grâce à Qumran, on fait un bond de 1000 ans en arrière pour se rapprocher au plus près de l'époque de rédaction de la Bible. Et un quart des manuscrits de la Mer Morte, à peu près, oui, un quart, ce sont des manuscrits de livres de la Bible. Et c'est ça le toute première surprise, c'était de se rendre compte qu'on pouvait, par ce biais, par l'étude des manuscrits de la Mer Morte, accéder à un texte beaucoup plus ancien, beaucoup plus proche de l'époque de la rédaction de la Bible.
Et alors, est-ce que ce texte plus ancien de la Bible, est-ce que c'est le même texte que les manuscrits du Moyen-Âge qu'on avait ?
La réponse est oui et non. Certains manuscrits sont effectivement étonnamment proches du texte qui a été transmis, qu'on connaissait au Moyen-Âge. Donc, la première leçon, c'est de dire, bon, ça veut dire que même si les manuscrits médiévaux sont tardifs, ça veut dire que quand même il y a eu un effort de fidélité dans la transmission et que les scribes ont copié soigneusement pendant des siècles de sorte qu'il n'y ait pas trop d'erreurs.
Si vous voulez. C'est fascinant quand même d'ailleurs vu les techniques de l'époque que sur si longtemps des textes se soient transmis aussi fidèlement.
Oui, c'est assez fascinant et on sait d'ailleurs quelles étaient certaines des techniques employées par ces scribes, ce qu'on appelle les massorètes, c'était les transmetteurs littéralement, c'est ceux qui avaient pour mission de transmettre le texte. Ils avaient tout un tas de systèmes de contrôle du texte, de compter le nombre de lettres, le nombre de mots. Donc après avoir copié le texte, quelqu'un d'autre allait soit le même scribe, soit quelqu'un d'autre allait compter le nombre de mots, le nombre de lettres pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. C'est des systèmes, c'est l'ancêtre un peu des systèmes qu'on a aujourd'hui. Vous savez peut-être pas, mais quand vous avez votre numéro de sécurité sociale, en fait, souvent le dernier chiffre, en fait, c'est un chiffre supplémentaire qui est un chiffre qui permet de contrôler qu'on n'a pas fait d'erreur en topant les chiffres précédents. C'est la même chose pour le RIB quand on donne ses coordonnées bancaires, etc. En fait, aujourd'hui, on a l'habitude de faire ça, c'est-à-dire que après avoir copié et pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur de copie, on a un petit code de contrôle. Eh bien, il y avait des codes de contrôle un peu les ancêtres, disons, de ces systèmes-là déjà, donc à l'époque des massorets. Donc c'est sûr que on sait qu'ils étaient extrêmement attentifs à ne pas faire d'erreur en copiant le texte. Et donc ça veut dire que le texte qu'on a, qui nous a été transmis au Moyen-Âge, existait déjà plus ou moins, un peu de choses près à l'époque de Qumran. Mais donc ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise, c'est que ça n'est pas le seul texte qui existait à l'époque. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
Oui, c'est-à-dire que comme si la Bible qui nous avait été transmise, elle n'était pas complète en fait.
C'est-à-dire que c'est pas qu'elle n'est pas complète, mais la Bible qui nous est transmise, c'est une version. Donc la Bible qui nous a été transmise et qu'on connaissait de par des manuscrits médiévaux, c'était une Bible qui était ancienne, mais c'était une des versions, une des recensions, on appelle ça des recensions. C'était une des recensions de la Bible, en fait il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres à l'époque. Alors on le savait déjà un peu avant la découverte de Qumran, mais on le savait pas très bien. On connaissait deux autres recensions, deux autres versions de la Bible qui avaient été transmises par d'autres communautés du judaïsme. Alors l'une c'était par des judéens qui s'étaient établis à Alexandrie, au nord de l'Égypte, et qui, donc, petit à petit, avait adopté la langue grecque, et qui, du coup, avait traduit en grec la Bible hébraïque. Et ça s'est fait avant notre ère. Hein. Certains, souvent les gens pensent que c'est des chrétiens qu'on traduit en grec, mais pas du tout. C'est pas cette version grecque ancienne, elle date entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc ces judéens-là, établis à Alexandrie, qui finalement parlent plus grec, avaient traduit en grec ces textes, et ces textes avaient ensuite été transmis. Alors c'est vrai souvent par des chrétiens pendant des siècles, et on a aussi donc d'anciennes bibles grecques et qui étaient différentes du coup, avec des différences assez importantes entre cette version grecque et la version hébraïque. Mais le problème, c'est qu'on se disait, bon, est-ce que ces différences, elles sont dues à la traduction elle-même? Peut-être le traducteur a pris ses aises, il était peut-être un peu farfelu, ou alors il avait d'autres choses à dire, ou je sais pas, enfin bref. Et donc on pouvait toujours mettre sur le compte de la traduction ces différences. Et là, la découverte extraordinaire qu'on a faite à Qumran, c'est qu'on a découvert des manuscrits en hébreu, et non pas en grec, mais qui concordaient avec cette recension dite d'Alexandrie en Égypte. Et donc, ça veut dire que cette recension, elle vient pas d'Alexandrie, elle vient pas du grec, elle vient bien de Judée, elle vient bien de l'hébreu.
Oui, ce sont pas les traducteurs qui ont déformé les propos, mais par contre, à propos de cette justement interprétation que pouvaient faire les, alors soit des traducteurs, soit des scribes, on remarque du coup avec ces manuscrits de Qumran, que les scribes pouvaient parfois prendre certaines libertés, alors soit commenter, soit modifier certaines choses. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît complètement fou aujourd'hui. Enfin, quand on édite un livre, on change pas ce qu'a mis l'auteur, quoi.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors ça, c'est vrai que c'est surprenant. On le voit, le scribe, alors qu'il soit en train de copier un manuscrit hébreu, qu'ils soient en train de traduire de l'hébreu vers, je sais pas, l'araméen ou le grec, en tout cas vers une langue que les gens parlaient, eh bien souvent c'est pas juste un travail mécanique, c'est pas juste une copie mécanique ou une traduction mécanique. Souvent, assez souvent quand même, on en profite pour améliorer le texte. Et ça, c'est, on le voit assez bien dans les manuscrits de Qumran, où on a même des annotations entre deux lignes. On le fait, nous, aujourd'hui, on écrit, puis d'un seul coup, on met un petit signe, et puis au-dessus, entre deux lignes, ou des fois, si on n'a pas la place, dans la marge, parfois même à la verticale. C'est très drôle, à Qumran, on a ça. Donc, le texte est évidemment écrit à l'horizontale, et puis d'un seul coup, dans la marge, à la verticale, il y a une phrase qui est ajoutée en disant, non, mais là, c'est là, ou des rayures, des ratures, on rature un mot, et puis au-dessus, on le remplace par un autre mot. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui peut nous choquer, nous, aujourd'hui, parce que le texte est sacré, il est figé, on ne se sent pas l'autorité d'y toucher, mais à l'époque, manifestement, et ça c'est aussi une des grandes révélations de Qumran, on se rend compte qu'à l'époque, qui n'est pas si lointaine que ça, c'est-à-dire au tournant de notre ère, à l'époque de Jésus, des premiers chrétiens, eh bien, on avait encore la liberté de modifier, de corriger, d'améliorer le texte biblique.
Oui, puis du coup, ça montre un autre rapport au texte sacré, parce que même si c'était pas figé, les textes étaient quand même sacrés, j'imagine, à l'époque, et du coup, c'est quelque chose d'intéressant qui peut venir interpeller aussi notre rapport au texte sacré aujourd'hui.
Mais oui, absolument. Quand on a découvert ça, il y a des gens qui ont dit, oh, mais si les gens se prenaient de la liberté, c'est que le texte était pas sacré. Mais c'est pas vrai du tout. On voit clairement que le texte est sacré. C'est évident. On cite. Il y a des livres qui vont citer. Moïse a dit. Et puis on va citer le Pentateuque. Le prophète Isaïe a dit. On cite Isaïe. On écrit un commentaire entier du prophète Habacuc. Donc ce sont des livres dont on reconnaît l'autorité. Il est évident que pour les scribes de Qumran, le Pentateuque avait une autorité. Alors je dis pas que tous les livres avaient une autorité fondamentale, mais quand même, c'est sûr que il y avait des livres qui avaient une autorité indiscutable, fondamentale. Même dans les tombes, on a retrouvé dans les tombes des phylactères, donc des petites boîtes avec des versets bibliques copiés sur des petits papiers, etc. C'est évident que c'était ce qu'ils avaient de plus précieux. On sent que pour eux, leur foi, leur croyance, était basée en grande partie sur ces textes qui étaient fondamentaux. Mais ça veut dire que pour eux, le fait que le texte soit sacré ne veut pas dire qu'on ne peut pas y toucher. Peut-être même que c'est le contraire, que peut-être que précisément parce que le texte est sacré, il faut l'améliorer en permanence. Et c'est pour ça qu'à Qumran, on amène des manuscrits qui viennent compiler des passages du Deutéronome, de l'Exode. On vient réécrire le Pentateuque, si vous voulez, alors que pourtant le Pentateuque, c'est ce qu'il y a de plus sacré, certainement, le texte le plus important. Et pourtant, on vient réécrire le Pentateuque, la loi de Moïse, pour faire quelque chose qui soit encore plus complet, plus exhaustif, plus clair, plus limpide, éviter des ambiguïtés, etc. On se donne du mal pour rendre un texte le plus parfait possible.
Oui, donc là, on se trouve bien à une époque où on est en train de construire un petit peu le canon des textes fondateurs quoi, de la Bible hébraïque. Et du coup, à partir de quel moment on peut dire que ça a été un peu plus figé et qu'on peut se dire, bon, bah voilà, maintenant c'est ça les textes fondateurs de la Bible hébraïque. Et puis, ensuite, une autre question qui vient, c'est évidemment la naissance du christianisme.
Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, ce que Qumran nous révèle, c'est que le canon n'existait pas encore à l'époque. Et ça, c'est important parce qu'on avait pour habitude de dire que le canon avait été fixé avant. On avait cette idée que voilà, il y avait les écritures et que tout le monde était d'accord là-dessus. Sauf que quand on regarde, on voyait déjà que même entre les Sadducéens et les Pharisiens, tout le monde n'était pas d'accord, y compris à l'époque des premiers chrétiens. On le voit même dans le Nouveau Testament, puisque Paul, à un moment donné, joue sur le fait que les Sadducéens ne reconnaissent que le Pentateuque et qu'ils ne croient pas en la résurrection, que les Pharisiens, oui. Donc Paul va jouer sur le fait de dire « je suis pharisien, je crois en la résurrection et c'est pour ça qu'on m'accuse ». Bref, donc on sait qu'à l'époque, tous les Judéens n'étaient pas tous d'accord là-dessus. Et on en a vraiment, et là ça apparaît de façon flagrante à Qumran, il est évident que la liste des livres qui sont aujourd'hui dans notre Bible n'était pas compilée à l'époque. Mais on voit en même temps qu'on n'est plus très loin, puisque si on regarde les manuscrits du deuxième siècle, on a quelques manuscrits de la Mer Morte qui datent non pas du premier siècle de notre ère, mais du deuxième siècle de notre ère. Eh bien, là d'un seul coup, on observe que le texte semble beaucoup plus figé, et en particulier correspond à celui qu'on connaît, nous, par le Moyen-Âge. Donc on voit que parmi les différentes recensions, il y en a une qui s'impose dans le judaïsme, d'une part. D'autre part, qu'on commence à copier les livres les uns derrière les autres. Je pense notamment à un rouleau des 12 petits prophètes qui a été découvert et qui date du IIe siècle, et on les trouve dans le bon ordre. Je dis le bon ordre, c'est l'ordre que nous, on connaît, celui qui est moi dans la Bible hébraïque que je manipule au quotidien et qui date du Moyen-Âge. Mais on se rend compte que déjà à l'époque, cet ordre était fixé, alors qu'un siècle plus tôt, à l'époque de Qumran, eh bien, l'ordre n'était pas encore fixé. Donc je pense que les choses ont dû se faire assez vite après la destruction du temple de Jérusalem. Après 70, qui est quand même un événement, une sorte de traumatisme pour le judaïsme, le temple est détruit, eh bien, le judaïsme va se restructurer, va se recomposer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on va décider, on va commencer à faire la liste. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette époque-là qu'on a des témoignages. Par exemple, chez Flavius Joseph, je vous disais, Flavius Joseph écrit à la fin du premier siècle de notre ère. Et lui, il ne donne pas la liste, mais il donne le nombre de livres dont on reconnaît l'autorité. Donc il semble bien qu'à la fin du 1er siècle, dans certains mouvements juifs, on a déjà fait une liste. Alors il nous la donne pas, il nous dit il y a 5 livres de la loi, etc. Donc il donne le nombre dans chaque catégorie, la loi, les prophètes, les écrits, etc. Il nous donne des chiffres, mais on ne sait pas ce qu'il met derrière. Et on a un autre chiffre qui est évoqué dans une apocalypse juive, une apocalypse d'Esdras, qui doit dater elle aussi grosso modo de la même période, fin du 1er siècle, début du 2e siècle de notre ère, et là aussi on a un chiffre. Donc vous voyez, il y a une convergence d'indices qui, à mon avis, montrent que c'est à cette époque-là qu'on va commencer à discuter sérieusement de savoir quels sont les livres qu'on va mettre dans la Bible.
Voilà, ça s'affine un petit peu à cette période. Et puis on voit aussi, si on regarde les différentes versions parfois d'un même texte, bien il y a certains textes qui dominent un petit peu dans les manuscrits de Qumran.
Oui, c'est ça. Qumran, ce qui est intéressant, qui se situe avant la destruction du temple et donc à cette époque de foisonnement, on se rend compte que manifestement, d'abord, il y a beaucoup plus de livres que ceux que nous connaissons dans la Bible. Tous les livres de la Bible hébraïque, sauf Esther, sont attestés, mais également des livres des Bibles des Bibles chrétiennes, le Siracide par exemple est attesté, l'épître de Jérémie, etc. Alors que c'est des livres qui n'ont pas été retenus dans la Bible hébraïque, dans le canon rabbinique, et ils existaient, certains étaient très appréciés. Je parlais tout à l'heure d'Enoch, on pourrait parler des Jubilés. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés ont été canonisés par l'Église d'Éthiopie. Donc les chrétiens orthodoxes éthiopiens reconnaissent la canonicité de ces livres-là, mais pas le judaïsme rabbinique ni les églises d'Occident. Mais alors que le livre d'Enoch, il y a une quinzaine d'exemplaires du livre d'Enoch, c'est un best-seller, c'est un des livres les plus populaires. Donc on se rend bien compte que à l'époque, dans ce mouvement-là, on avait un intérêt pour beaucoup plus de livres que ceux qui seront retenus par les rabbins, si vous voulez, le judaïsme rabbinique. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait écho à d'autres formes de judaïsme qui existaient, et notamment une qui va devenir le christianisme.
Oui, parce que justement, voilà, ces manuscrits de la Mer Morte jouent aussi un rôle important, enfin, en tout cas, l'étude des manuscrits de la Mer Morte dans notre connaissance de la naissance du christianisme. Qu'est-ce que ça nous a apporté?
Bah, Qumran, c'est contemporain. Jésus, Jean-Baptiste, tout ça, c'est des gens qui habitaient pas loin de Qumran, qui vivaient, qui peut-être passaient à côté sur la route. Enfin, donc on est vraiment à la même époque. Donc le fait de découvrir à Qumran des manuscrits dont on avait perdu la trace parce que les rabbins les ont exclus, mais que l'on connaissait parce qu'on savait qu'ils intéressaient les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est formidable de mettre la main enfin sur ces manuscrits-là. On a l'impression de lire des manuscrits pratiquement chrétiens. Vous allez retrouver le même vocabulaire, vous allez retrouver les mêmes expressions. Moi, je sais pas, dans le Nouveau Testament, on parle des fils de lumière, des fils de ténèbres. Mais à Qumran, on parle de ça. Dans le Nouveau Testament, on parle des trois filets de Bélial. Alors, qu'est-ce que c'est que ces filets? Pourquoi il y en a trois? On retrouve la même expression, les trois filets de Bélial à Qumran. Quand on lit les manuscrits de Qumran, on a pratiquement l'impression de lire des textes chrétiens du Nouveau Testament. Enfin, c'est spectaculaire. Et notamment, une idéologie, cet intérêt pour, je sais pas, les anges déchus, les anges sont évoqués, le livre d'Enoch est mentionné, Enoch est mentionné dans l'épître aux Hébreux, l'épître de Jude cite le livre d'Enoch, ainsi a prophétisé Enoch, nous dit Jude, et là il cite le livre d'Enoch. Bon, ça veut bien dire que le livre d'Enoch était apprécié, était populaire parmi certains milieux chrétiens, qui de toute évidence, s'il fallait classer ces premiers chrétiens dans une des branches du judaïsme, ça aurait été évidemment la branche qu'on voit à Qumran. Donc à Qumran, on a une mouvance du judaïsme extrêmement proche de celle qui a donné naissance au christianisme.
C'est un petit peu un berceau du christianisme, alors.
Alors, en un sens, oui, on pourrait dire que Qumran, ou en tout cas l'idéologie telle qu'on la voit à Qumran, et donc les gens qui partageaient cette idéologie, c'est une partie de ces gens-là qui ont fondé le christianisme. C'est le berceau du christianisme.
Et donc, ces différentes découvertes autour des manuscrits de la Mer Morte, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, alors à la fois à la religion juive et puis à la religion chrétienne? Est-ce que ça apporte de nouvelles réflexions, de nouvelles interprétations? Est-ce que ça a changé quelque chose pour la religion telle qu'elle est vécue aujourd'hui, quoi?
Oui, je pense que ça nous renvoie à nos origines et donc ça nous renvoie à notre identité. Pour le judaïsme, je pense que c'est important de bien se rendre compte qu'à l'époque, le judaïsme ne se résumait pas au judaïsme qu'on connaît aujourd'hui. Le judaïsme tel qu'on connaît aujourd'hui, le judaïsme orthodoxe, c'est le judaïsme rabbinique. C'est le rabbinisme, ce qu'on appelle le rabbinisme. C'est celui qui a produit la Mishnah, le Talmud. Et donc, c'est le judaïsme qui s'est imposé aujourd'hui. Mais il faut bien se souvenir qu'à l'époque, c'était clairement pas le judaïsme, le seul judaïsme qui existait à l'époque. Il y avait différents mouvements juifs. Et les manuscrits de la Mer Morte, d'un seul coup, nous donnent accès pour la première fois à une littérature colossale en hébreu, en araméen. On avait de la littérature d'un autre judaïsme de l'époque, mais en grec, je disais tout à l'heure, par exemple. Mais souvent, on n'en tenait pas cas. Et parce que le rabbinisme va utiliser l'élément linguistique pour bien se distinguer du christianisme. Le judaïsme, ce sera la langue hébraïque, le christianisme, ce sera la langue grecque. Donc, tous ces écrits juifs de langue grecque, on les a mis de côté. Et ça n'est que maintenant que les chercheurs israéliens, notamment, s'intéressent de plus près à toute cette littérature juive de langue grecque. Et il y a d'excellents collègues, Emmanuel Tov, par exemple, à l'Université hébraïque de Jérusalem, est un des meilleurs spécialistes de cette traduction grecque des écritures hébraïque, mais il faut bien reconnaître que c'est un phénomène assez récent. Donc pour les juifs, je pense que aujourd'hui, étudier Qumran, c'est se dire, mes racines juives, c'est peut-être autre chose que simplement le judaïsme rabbinique, c'est peut-être autre chose que le Talmud, les Midrashim, etc. Et pour les chrétiens, eh bien, c'est aussi se souvenir que les origines du christianisme, eh bien, c'est précisément le judaïsme. Et peut-être que les chrétiens se retrouvent pas beaucoup dans le judaïsme orthodoxe, dans le rabbinisme à l'heure actuelle, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il faut se couper totalement du judaïsme. En fait, ça veut dire que ça nous renvoie à notre identité profonde et de se dire les premiers chrétiens étaient en fait des juifs et une grande partie de l'idéologie qu'on retrouve dans le Nouveau Testament existait à l'époque, notamment dans les manuscrits de Qumran.
Oui, donc ça replace tout ça dans un contexte et puis ça redonne crédit à certains textes qu'on avait mis de côté à une époque. Et alors ces textes des manuscrits de la Mer Morte, est-ce qu'aujourd'hui on peut les trouver, même si on n'est pas chercheur, même si on connaît pas l'araméen, l'hébreu ou le grec, est-ce qu'on peut quelque part les lire donc en français et savoir ce qu'ils contiennent?
Oui, il y a eu plusieurs entreprises de traduction française, alors pas toujours de très bonne qualité d'ailleurs. Celle que je peux recommander et alors qui s'intéresse pas qu'aux manuscrits de la Mer Morte, c'est dans la collection de la Pléiade, la célèbre collection de la Pléiade chez Gallimard, il y a un écrit sur les écrits intertestamentaires. Et alors on ne trouvera pas que des manuscrits de la Mer Morte, mais on trouvera notamment les manuscrits de la Mer Morte les plus célèbres. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage d'une extrême qualité, qui a notamment été dirigé par André Dupont-Sommer, dont j'ai parlé tout à l'heure, et par Marc Filonenko, que je salue au passage, et qui a été doyen de cette faculté ici même à Strasbourg. Et qui est académicien, qui est à l'Académie d'inscription et belles-lettres aujourd'hui. Et il y a un projet alors plus récent qui s'intéresse alors lui pour le coup uniquement aux manuscrits de la Mer Morte, mais qui cherche en même temps à être plus exhaustif, à publier l'intégralité des manuscrits de la Mer Morte en français dans une édition bilingue. Ça s'appelle la Bibliothèque de Qumran. Et j'ai la chance de co-diriger ce projet, c'est aux éditions du Cerf. Et donc on va publier, on est en train de le faire, déjà 3 volumes sont parus, l'intégralité des manuscrits de la Mer Morte, en suivant la liste des livres de la Bible hébraïque. Alors c'est un peu anachronique, hein, on en parlait tout à l'heure, on disait évidemment à l'époque de Qumran, il n'y a pas cette liste et cet ordre, mais pour le lecteur moderne, pour nous aujourd'hui qui connaissons la Bible et qui voulons nous intéresser aux manuscrits de la Mer Morte, c'est plus facile de commencer par la Genèse. Donc le premier livre commence par la Genèse, etc., c'est le premier volume. Et donc vous trouverez tous les manuscrits, avec sur la page de gauche le texte original, qu'il soit hébreu, araméen ou grec, et sur la page de droite une traduction française, avec des annotations, une introduction. Ce qui fait que même si vous ne connaissez pas l'hébreu, l'araméen ou le grec, vous pouvez quand même accéder à tous ces manuscrits. Et ça, c'est important parce qu'on sait que le public veut avoir accès à ces manuscrits. Les manuscrits, il a fallu des dizaines d'années pour que ça publie. Parfois, on se demandait, est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'on ne veut pas nous dire la vérité? Que contiennent vraiment ces manuscrits? Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir dire, regardez, ces manuscrits sont là, vous pouvez les lire, vous pouvez tous les lire, on ne vous cache rien, vous pouvez les lire. Et donc ça, c'est un projet de... Alors c'est un chantier colossal, évidemment, qui a commencé il y a longtemps. On essaie de publier un volume tous les 2-3 ans, mais le troisième volume qui vient de paraître, il fait 1000 pages. Donc bon, on est en train de travailler sur le suivant. On espère qu'il sera publié cette année, sinon l'an prochain. Ça va encore nous prendre quelques années, mais c'est un projet passionnant.
En même temps, c'est pas grave si ça prend autant de temps, parce que ça prend aussi du temps de le lire pour le lecteur, donc je pense que le lecteur a le temps d'attendre le livre, l'édition suivante, quoi.
Oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. Vous avez de quoi vous occuper en attendant la parution du prochain volume.
Voilà, donc c'est une collection un peu pédagogique qui rend accessible voilà, ces recherches qui paraissent comme ça compliquées quand on commence à s'y intéresser, mais qui sont vraiment passionnantes. En tout cas, moi, je vais vous remercier, hein, Michael Langlois, de nous avoir éclairé sur cette question passionnante. Et puis, on aura peut-être d'autres occasions d'en reparler.
Oui, avec grand plaisir.
Et ben, merci à vous. Et puis.